Comment prier les rats? Toré. Introduction. L'importance de la prière. 2. Adresser les prières à Dieu. 3. Obéissance et prière. 4. Prier au nom de Christ et en accord avec la volonté de Dieu. V. Prier par l'Esprit. 6. Toujours prier et ne point se relâcher. 7. Demeurer en Christ. 8. Prier avec action de grâce. 9. Obstacle à la prière. X. Quand prier. 11. Nécessité d'un réveil universel. 12. Rôle de la prière, avant et pendant les réveils. Note d'édition. Comment prier? Introduction. L'auteur de cet ouvrage est l'évangéliste américain bien connu Robert Torrey qui, au début de ce siècle, a été entre les mains de Dieu l'instrument de nombreux réveils à travers le monde. Homme ferme et sans détour, bourru de manière, saisissant les foules par sa logique irréfutable et le solide fondement scripturaire de ses enseignements, Torrey refusa toujours de laisser écrire sa biographie par crainte de détourner au profit de l'homme quelque chose de la gloire qui ne revient qu'à Dieu. Nous nous bornerons donc à dire que, reçu docteur en théologie, il fut consacré à l'âge de 22 ans dans une église congrégationaliste, puis parti pour l'Allemagne, après 4 ans de ministère, afin d'y compléter et approfondir ses études. Il y fut séduit quelque temps par la théologie nouvelle et par l'apparence et les prétentions scientifiques de la critique moderne, mais il reconnut bientôt que l'ancienne et simple conception absolument évangélique du christianisme est la seule qui change la vie, apporte la pleine satisfaction de l'intelligence et du cœur, et soit efficace pour triompher du péché. Il a résumé lui-même son message en disant « Je prêche 4 grandes vérités, je prêche la Bible entière, de la première à la dernière page, acceptant tout et ne rejetant rien, je prêche la doctrine de l'expiation, c'est-à-dire le salut, par la puissance du sang de Jésus-Christ, je prêche que le Saint-Esprit est une personne, je prêche la puissance de la prière. » À son retour d'Allemagne, il fonde à Minneapolis une église congrégationaliste, mais semble appelé au ministère d'évangéliste plutôt qu'à celui de pasteur. Éphésiens 4, 11 et organise dans cette ville même pendant 6 ans des réunions dans de vastes salles et dans des théâtres. Ce travail lui vaut l'affection du célèbre évangéliste Moody qu'il appelle, en 1889, à diriger son institut biblique de Chicago. 5 ans plus tard, une importante église de Chicago le place à sa tête, déjà florissante, elle prend entre ses mains un splendide essor. Tout en menant de front ces deux activités, il consacre chaque année 5 mois de grandes tournées d'évangélisation, au cours desquelles des centaines d'âmes entrent dans la vie et la joie du Seigneur. En 1898, un petit groupe de chrétiens commence à se réunir à l'Institut biblique le samedi soir de 9 à 10 heures pour prier. Leur nombre s'accroît progressivement jusqu'à ce que 300 à 400 personnes s'assemblent chaque semaine pour demander à Dieu un grand réveil mondial. Ce fardeau devint si lourd, au cœur du docteur Torrey et de quelques autres, qu'après cette réunion il continuait, en petit comité, à crier à Dieu jusque tard dans la nuit. Une nuit, le docteur Torrey se surprit, au sein de ce petit noyau, à prier Dieu de l'envoyer prêcher l'évangile autour du monde, afin que des milliers d'âmes se donnent à Christ en Chine, au Japon, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Tasmanie, aux Indes, en Angleterre, en Écosse, en Irlande, en Allemagne et en Amérique même. Cette prière pouvait sembler insensée de la part d'un homme placé à la tête d'une importante église et directeur d'un institut biblique, mais le Seigneur n'allait pas tarder à la justifier. Moins d'une semaine après, l'exaucement survint, aussi extraordinaire que la prière elle-même. À l'issue d'une réunion de prière de son église, Torrey fut abordé par deux étrangers qui, au nom des Églises Unies de Melbourne, l'invitèrent à entreprendre là-bas une campagne de réveil. Depuis plusieurs mois, on les avait envoyés à la recherche d'un homme qui pût mener une telle campagne, et ils étaient maintenant persuadés d'avoir trouvé en Thoré le serviteur que Dieu avait désigné. Saisi d'un ciperon, exaucement, Thoré hésita, objecta l'impossibilité où il était de délaisser ses responsabilités à Chicago, mais la réponse fut catégorique « Vous viendrez ». Nous vous y amènerons par la prière ? Effectivement, après quelques mois, le docteur Thoré reçut un télégramme par lequel on lui demandait de câbler sa réponse. De cette réponse, affirmative, allait dépendre le destin éternel de près de 100 000 âmes. C'est en avril 1902 que le docteur Thoré et son compagnon, le chanteur Charles Monsieur Alexander, commençaient cette mission à Melbourne au cours de laquelle, en 4 semaines, 8 000 âmes se donnèrent à Jésus-Christ. Pendant 6 mois, ils passèrent de ville en ville jusqu'à ce que l'Australie entière fût évangélisée et l'Église australienne sanctifiée tout à nouveau. Mais la semence d'une moisson plus grande encore allait être jetée parmi cette population exultante de la joie du salut. Thoré avait déjà publié le présent ouvrage qui rassemble une série d'instructions familières destinées à introduire des réunions de prière et dans lequel revient à plusieurs reprises une locution merveilleusement expressive et malheureusement intraduisible près Troug. Cette expression évoque le forage d'un tunnel ou le lent travail d'un outil qui perce une plaque d'acier. Prêtroug s'est prié avec cette persévérance inlassable qui use l'obstacle, avec cette puissance irrésistible qui se fraye un passage au travers de montagnes de difficultés jusqu'à se faire jour de l'autre côté, sur le pur azur de la communion avec Dieu, là où tous les exaucements sont rendus possibles. Une dame de Melbourne ayant lu ce livre fut saisie par la force de l'expression et commença à organiser ses amis en cercle de prière déterminée à prier ainsi. Le mouvement s'étendit à travers la ville et bientôt il y eut, à Melbourne, plus de 1700 de ces cercles. Peu après, cette dame rentra en Angleterre et y rapporta l'histoire des groupes de prière. L'idée fut adoptée avec enthousiasme et bientôt l'Angleterre et l'Irlande en furent aussi parsemées. En 1904, il y avait, à travers le monde, 30 000 chrétiens dont la prière quotidienne était « Réveille ton œuvre, ô Dieu ». C'est certainement là le principal secret du merveilleux réveil qui éclata au pays de Galles et des grands mouvements de l'esprit qui produisirent d'authentiques réveils de Pentecôte à travers le monde vers cette époque. De proche en proche, des invitations parvinrent au docteur Thoré et c'est ainsi qu'il parcourut effectivement la Chine, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Tasmanie, l'Inde, puis l'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse, le pays de Galles pour finalement atteindre l'Amérique, soit à peu près exactement le plan qu'il s'était tracé dans cette prière des premières heures d'un certain dimanche matin. On comprendra maintenant pour quelle raison il nous a paru que c'est par cet ouvrage qu'il convenait d'inaugurer la série des publications de la mission Prière et Réveil, dont le but est d'aider par tous les moyens à l'éclosion d'un réveil encore plus impérieusement nécessaire à notre époque qu'il pouvait l'être il y a 50 ans. Au début de ce siècle, une traduction française, libre et abrégée de cet ouvrage, a déjà été donnée en Suisse par le pasteur-éditeur Thouvenot, mais les deux éditions parues en sont, depuis fort longtemps, épuisées. Nous avons voulu donner ici un texte nouveau, aussi près que possible de l'original, dont nous reproduisons les répétitions et les accumulations d'arguments. Qu'on veuille bien nous en excuser. Nous ne prétendons pas faire œuvre littéraire, mais nous avons voulu respecter la forme même d'expression du docteur Thoré qui, si elle est empreinte du génie particulier à la langue anglaise, est plus encore marquée du sceau de l'esprit qui inspire l'auteur. Celui-ci ne se propose pas, en effet, d'écrire un traité édifiant sur la prière, mais de fournir aux chrétiens, à partir de la parole de Dieu, des mobiles puissants qui les incitent à prier avec foi et persévérance, selon la ligne même des desseins de Dieu. Nous pensons que Dieu peut à nouveau se servir de ce livre pour susciter, parmi les chrétiens de langue française, un mouvement analogue à ce qu'il a déjà suscité à travers le monde, et c'est la prière que nous formons au moment où nous le mettons entre les mains du public. Septembre 1948. Prière et réveil. Comment prier? L'importance de la prière. Au sixième chapitre de l'Épître aux Éphésiens, verset 18, Éphésiens 6, 18, nous lisons des paroles qui mettent en évidence l'extrême importance de la prière avec une force qui nous saisit et nous subjugue. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. L'enfant de Dieu avisé qui s'arrête pour puiser le contenu des mots et pour considérer le contexte est poussé à s'écrier « Je dois prier, prier, prier ». Je dois mettre toute mon énergie et tout mon cœur à la prière. Quoi que je fasse d'autre, je dois prier. La version de Lausanne, un plus forte encore s'il est possible que la précédente, donne priant en tout temps dans l'esprit, par toutes sortes de prières et de supplications, et veillant à cela avec toute persévérance et avec supplication au sujet de tous les saints. Remarquez-les en tout temps, toutes sortes de prières, avec toute persévérance, pour tous les saints. Notez l'accumulation et la répétition des mots priant, prière, supplication, persévérance, supplication encore. Pesez enfin la force de l'expression, veillant à cela plus exactement sans vous endormir. Paul connaissait la paresse naturelle de l'homme, spécialement dans le domaine de la prière, comme il est rare que nous prions sans relâche jusqu'à l'exaucement final. De que deux fois il arrive qu'une église ou un individu parvienne dans la prière jusqu'aux abords immédiats d'une grande bénédiction et, à ce moment précis, laissant aller, tombe dans l'assoupissement et abandonne le combat. Je souhaite que ces mots sans vous endormir, que le verset tout entier brûle au-dedans de nos cœurs. Mais pourquoi donc cette prière constante, persévérante, éveillée et victorieuse est-elle si nécessaire? 1. C'est avant tout parce que le diable existe. Il est rusé, il est puissant, il ne s'accorde aucun repos, il est sans cesse en train de comploter contre l'enfant de Dieu pour le faire tomber, et si l'enfant de Dieu se relâche dans la prière, le diable réussira à le prendre au piège. C'est la pensée même exprimée par le contexte. Nous lisons au verset 12 Éphésiens 6, 12 parce que ce n'est pas contre le sang et la chair qu'est notre lutte, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs universels des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Elle. Puis au verset 13 Éphésiens 6, 13 c'est pourquoi, prenez l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour, et, après avoir tout accompli, tenir ferme. Elle. Suit alors une description des différentes parties de l'armure du chrétien que nous devons revêtir si nous voulons tenir bon contre le diable et ses puissants artifices. Enfin, Paul couronne son exposé en disant au verset 18 Éphésiens 6, 18, qu'à tout le reste nous devons ajouter la prière constante, persévérante, infatigable et éveillée, prière dans l'Esprit Saint, sans laquelle tout le reste ne compte pas. 2. Une seconde raison pour prier de cette manière constante, persévérante, éveillée et victorieuse, est que la prière est le moyen établi par Dieu pour obtenir toutes choses et que la cause secrète de toute lacune dans notre expérience, notre vie et notre travail est la négligence de la prière. Jacques met ceci vigoureusement en évidence au chapitre 4 et au verset 2 de son épître « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas ». Jacques 4, de ses paroles nous révèle la vraie cause de la pauvreté et de l'impuissance de la plupart des chrétiens, la négligence de la prière. Mais enfant de Dieu se demande pourquoi donc fais-je si peu de progrès dans la vie spirituelle? Dieu répond négligence de la prière, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas? Mais serviteur de Dieu se demande pourquoi donc mon labeur porte-t-il si peu de fruits? À nouveau, Dieu répond négligence de la prière? Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas? Mon moniteur d'école du dimanche se demande pourquoi vois-je si peu de conversions parmi mes élèves? Et Dieu répond toujours négligence de la prière? Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas? Pourquoi donc, se demandent ensemble les assemblées et leurs conducteurs, l'Église de Christ gagne-t-elle si peu de terrain sur l'incrédulité, l'erreur, le péché et la mondanité? Une fois de plus, nous entendons Dieu répondre « négligence de la prière ». Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas? 3. Une troisième raison pour prier de cette manière constante, persévérante, éveillée et victorieuse est que les apôtres, établis par Dieu pour servir de modèle aux chrétiens, considéraient la prière comme l'affaire la plus importante de leur vie. Quand les responsabilités de l'Église primitive commencèrent à se multiplier et à fondre en foule sur eux, les 12 ayant convoqué la multitude des disciples, dirent « Il ne convient pas que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables ». Voyez donc, frères, parmi vous, cet homme de bon témoignage, plein d'Esprit Saint et de sagesse, que nous établirons pour ce besoin. Quant à nous, nous persévérons dans la prière et dans le service de la parole. Acte 6, 2-4, L. D'après ce que Paul écrit aux assemblées et aux individus, relativement à ses prières pour eux, il est évident qu'une très grande partie de son temps, de sa force et de sa pensée, était consacrée à la prière. Romains 1, 9-10, Éphésiens 1, 15-16, Colossiens 9, 1 Thessaloniciens 3, 10, 2 Timothée 1, 3. Tous les hommes de Dieu puissant, en dehors même de ce dont nous parle la Bible, ont été des hommes de prière. Ils ont différé les uns des autres en bien des choses, mais sur ce point ils se sont tous ressemblés. 4. Mais il est une raison encore plus importante à cette prière constante, persévérante, éveillée et victorieuse. C'est que la prière a occupé une place de tout premier plan et joué un rôle capital dans la vie terrestre de notre Seigneur. Prenons par exemple Marc 1,5, 35. Marc 1, 35, nous lisons le matin. Pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. La journée précédente avait été très remplie et très mouvementée, mais Jésus écourta les nécessaires heures de sommeil afin de se lever tôt pour s'adonner à la prière, plus impérieusement nécessaire encore. Prenons encore Luc 6,5, 12. Luc 6, 12, nous lisons en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Notre Sauveur trouvait donc nécessaire, en certaines circonstances, de consacrer une nuit entière à la prière? Les mots prier et prière sont appliqués au moins 25 fois au Seigneur dans le récit abrégé de sa vie, que nous donnent les quatre évangiles, et le fait qu'il pria est mentionné, en plusieurs endroits où ces mots ne figurent pas. De toute évidence, la prière absorbait une grande partie du temps et des forces de Jésus. Aussi un homme ou une femme qui ne consacre pas beaucoup de temps à la prière ne saurait être appelé à juste titre disciple de Jésus-Christ. 5. Il est, à la prière constante, persévérante, éveillée et victorieuse, une autre raison qui semble plus puissante, encore que la précédente, la voici, la prière est la partie plus importante du ministère actuel de notre Seigneur ressuscité. Le ministère de Christ ne s'est pas terminé à sa mort. Là s'acheva seulement son œuvre expiatoire, mais lorsqu'il ressuscita et fut élevé à la droite du Père, il entreprit, à la place, une autre œuvre tout aussi importante pour nous que son œuvre d'expiation. Cette œuvre ne peut être séparée de son œuvre d'expiation, elle repose sur celle-ci, comme sur son fondement même, mais elle n'en est pas moins nécessaire à l'accomplissement de notre salut. Nous lisons ce qu'est cette grande œuvre, par laquelle il conduit notre salut à son achèvement dans Hébreux 7. 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. Ce verset nous dit que Jésus est capable de nous sauver parfaitement, ce qui ne signifie pas seulement qu'il peut nous sauver de l'extrême perdition, mais jusqu'à l'extrême perfection, jusqu'à l'entière plénitude du salut, l'absolue sainteté, parce qu'il n'est pas mort seulement mais qu'il est aussi toujours vivant. Ce verset nous dit encore pour quel dessein il vit maintenant et c'est d'intercéder pour nous, de prier. La prière est sa principale activité durant cette ère, et c'est par ses prières qu'il nous sauve chaque jour. La même pensée se retrouve dans le remarquable et triomphant défi de Paul, qui accusera les élus de Dieu. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Romains 8, 34. Si donc nous voulons être unis à Jésus-Christ dans son œuvre actuelle, il nous faut passer beaucoup de temps en prière, nous consacrer à la prière sérieuse, constante, persévérante, éveillée et victorieuse. Rien ne m'a fait sentir aussi vivement combien il importe de prier en tout temps, d'être constamment en prière, que cette pensée c'est la principale occupation présente de mon Seigneur ressuscité. Pour moi, je veux être uni à lui, et à cette fin j'ai demandé au Père, quels que puissent être ses autres desseins à mon égard, de faire de moi en tout cas un intercesseur, un homme qui sache prier et qui consacre beaucoup de temps à la prière. Ce ministère de l'intercession est un glorieux et puissant ministère, et tous nous pouvons y avoir part. L'homme ou la femme retenue par la maladie loin des cultes publics peuvent y avoir part, la mère de famille affairée, la femme qui doit gagner sa vie en lavant le linge des autres, peut y avoir part, elle peut faire monter ses prières pour les saints, pour son pasteur, pour les perdus et pour les missions lointaines tandis qu'elle se penche sur la lessive, savonner Reims et la lessive, n'en sera pas plus mal faite pour cela. L'homme d'affaires surmené peut aussi y avoir part et prier tout en se hâtant d'une obligation à l'autre. Mais il va sans dire que si nous voulons conserver cet esprit de constante prière, nous devons prendre le temps, et le prendre largement de nous enfermer seuls avec Dieu dans le secret, pour ne rien faire d'autre que prier. Une sixième raison pour prier d'une manière constante, persévérante, éveillée et victorieuse, est que la prière est le moyen établi par Dieu pour nous permettre d'obtenir miséricorde et de trouver grâce d'être secourus dans nos besoins. Hébreux 4, 16 est l'un des versets les plus simples et les plus doux de la Bible. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ces paroles nous montrent clairement que Dieu a établi un moyen par lequel nous pouvons rechercher et obtenir miséricorde. Ce moyen est de nous approcher avec audace, confiance, hardiesse d'expression, du trône de la grâce, le lieu très saint de la présence de Dieu, où notre compatissant souverain sacrificateur Jésus-Christ est entré pour nous.